Chers amis de Radio Selve Regina, bonjour. Lucille avec vous pour une autre émission de Storia e Storie. Alors nous savons que ce sont quand même des moments assez tristes, surtout pour nous Corses, hein, qui aimons quand même Napoléon parce que c'était un être exceptionnel, même si on a pu reprocher beaucoup de choses. Tous nos rois en France ont fait beaucoup de guerres. Il y a eu la guerre sans arrêt avec l'Angleterre, avec l'Espagne, depuis Henri IV. Depuis Henri IV, ne parlons pas d'avant, des rois précédents, ne parlons pas d'avant Henri IV, parce que c'est assez compliqué, mais au moins Henri IV, grand-père de Louis XIV, hein, c'est quand même proche. Henri IV a fait sans arrêt la guerre. Louis XIII a dû la faire contre l'Espagne, et enfin, contre les Habsbourg lui aussi. Et Louis XIV, alors n'en parlons pas, il a passé sa vie en guerre. L'Angleterre et surtout la Hollande. Et il y avait des intérêts aussi, parce que la Hollande naviguait jusqu'au bout du monde et la compagnie des Indes orientales, des Indes occidentales, enfin la Hollande raflait tout et surtout faisait envoyer des corsaires contre les navires français. Voilà une émission intéressante qu'on pourrait faire aussi sur les corsaires. Les corsaires, à ne pas confondre avec les pirates, hein, vous le savez tous, le corsaire c'est celui qui fait la guerre de course. La guerre de course... Il a des lettres patentes du roi, enfin de l'autorité de toute façon. En Hollande, il n'y avait pas de roi, il y avait un Statthouder, qui était donc un chef d'État, comme le nom l'indique, et les corsaires avaient tous des lettres de course de l'autorité régnante pour pouvoir s'attaquer aux navires avec lesquels on était en guerre, des pays avec lesquels on était en guerre. Donc les Anglais et les Hollandais, c'était la France. Voilà, et ce sont des gens qui ont fait beaucoup de mal au commerce et donc à l'économie. Tous les corsaires faisaient du mal à l'économie, heureusement. Nous avons eu des corsaires extraordinaires, notamment le fameux Jean Bart. Hein, et voilà, c'était des gens qui raflaient des vaisseaux avec de l'or, avec des épices, qui étaient aussi chers que l'or, avec... de la nourriture, du blé. On voit Louis XIV plus d'une fois dans ses mémoires dire je félicite monsieur Untel, le capitaine Untel, qui a pris un bateau contenant un convoi de blé, voilà. Et c'était, à l'époque on écrivait des bleds, je crois que je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps. Donc les corsaires étaient utiles aux nations et bien sûr ils faisaient du mal aux nations ennemies. C'était le but. La guerre était sur mer énormément. Donc Napoléon, en tant que Corse, nous l'aimons quand même. Nous sommes fiers que ce soit un enfant d'Ajaccio qui ait imposé sa loi à l'Europe. Je signale aussi que contrairement à Louis XIV, qui a pris des risques en mettant son petit-fils roi d'Espagne, il savait qu'il y aurait la guerre et beaucoup de morts, Napoléon, lui, n'a jamais déclaré la guerre. C'est toujours l'Angleterre qui s'est arrangée, soit pour lui nuire, soit pour lui déclarer carrément la guerre. C'est une chose qu'il faut dire, Napoléon s'est défendu. Il n'a jamais déclaré lui-même une guerre. Donc, nous sommes tristes parce que c'est la fin de l'Empire, la fin d'une magnifique épopée qui a permis à beaucoup de gens de trouver la gloire. Et lorsque Napoléon est parti et que ce sont les Bourbons qui sont revenus, les frères du roi d'abord et puis son cousin, que Louis-Philippe, mais on parlera de tout ça parce que c'est parfois toujours un peu confus. Et lorsque les Bourbons sont revenus, et ils ne sont pas restés longtemps d'ailleurs, et ensuite, il n'y a plus cette aura de gloire. Ce qui a fait que tous les jeunes gens qui avaient envie de se battre et de faire une épopée victorieuse, tous ces jeunes gens sont devenus des romantiques désenchantés. Musset, le premier, Alfred de Musset, le premier, était quelqu'un qui aurait voulu vivre une épopée glorieuse, et ils étaient là, ils n'avaient rien d'autre à faire que de perdre leur temps, à ne rien faire finalement. Et ils ont écrit des vers désenchantés. Victor Hugo, lui, a eu le courage d'écrire de dire Napoléon le Grand. Après Napoléon III, il a appelé Napoléon le Petit, ce qui lui a valu d'aller en exil. Bien que Napoléon dit le Petit, Napoléon III, il fait beaucoup pour la France. Beaucoup, beaucoup. Il a fait la richesse de la France. Il a fait le Paris que nous voyons aujourd'hui avec des magnifiques immeubles. Donc, et il a détruit tous ces vieux quartiers qui sentaient mauvais, qui étaient pleins de miasmes et de maladies. Donc les Bonaparte ont fait énormément pour la France, il ne faut pas l'oublier. Et là alors nous sommes dans les derniers jours, mais c'est aussi pour ça qu'ils ont suscité tant de jalousie et tant de haine. Nous savons tous ce que peut faire la jalousie. L'envie, hein, l'envie, c'est une catastrophe ce que peut faire l'envie. Elle mène à la trahison, à la dénonciation. Et nous allons voir que Marie-Louise et le roi de Rome vont beaucoup en souffrir. Alors Napoléon a capitulé, hélas. La voie est libre pour le retour des Bourbons. Le roi de Rome a perdu son trône, sur lequel il n'était jamais monté, le pauvre. L'empereur d'Autriche, du moins, n'a pas bougé le petit doigt, ni pour sa fille, ni son petit-fils. Sa fille aurait dû être régente au nom de son fils. Mais lui n'avait aucune envie d'avoir encore un descendant de Napoléon. Comme tout le monde, il ne voulait plus des Napoléonides, comme on les appelle. Et donc, Marie-Louise, excusez mes hésitations, Marie-Louise vit un véritable pas calvaire. Elle qui, quelques jours plus tôt, vantait à son père son attachement pour la France, se sent étrangère, seule dans cette ville de Blois, parce qu'elle s'est réfugiée à Blois. Nous avons vu le magnifique cortège qui a quitté Paris et qui est arrivé à Blois dans la boue, avec des fourgons de marchandises et même d'or perdus dans la boue et dans le fleuve, dans la Loire. Donc elle est entourée d'une belle famille qu'elle n'a jamais adoptée et qui ne l'a jamais adoptée non plus. Il ne voulait plus Joséphine, mais il ne voulait pas non plus Marie-Louise. Et le manque de nouvelles de l'empereur la mine. Elle passe la majeure partie de sa journée à pleurer et espérer des nouvelles de son père, qu'elle appelle au secours dès le 3 avril. La situation des choses est si triste et si épouvantable pour nous que j'ai recours à vous avec mon fils. Je suis convaincue que vous ne sacrifierez pas la paix et les intérêts de votre petit-fils à l'avidité de l'Angleterre et de la Russie. Donc elle dit qu'encore une fois, mon cher papa, ayez pitié de moi. Je vous confie le salut de ce qui m'est le plus cher au monde, d'un fils qui est encore trop jeune pour connaître tous nos chagrins. L'empereur François ne répond pas. Napoléon de Fontainebleau, et il est pourtant très proche de Blois, il ne répond pas non plus. Elle ne peut pas adopter une ligne de conduite, elle en est incapable, la pauvre. Elle a besoin d'ordre et de conseils. Marie-Louise veut rejoindre Napoléon à Orléans, il va demander de venir le rejoindre à Orléans. Mais elle n'a pas les moyens de dire à une escorte « Emmenez-moi à Orléans ». Elle est au fond, elle est vraiment prisonnière et incapable d'agir. Elle ne peut pas agir. Et quand elle entend que Napoléon est envoyé à l'île d'Elbe, elle ne peut pas y croire. Et pourtant, l'île d'Elbe, est-ce si mal pour Napoléon? Non, on comprend que lui a vu une île près de la Corse et je pense que avec son esprit qui anticipait, il a pensé qu'il allait pouvoir s'enfuir. Et c'est pour ça qu'il a accepté l'île d'Elbe. De toute façon, c'était déjà beau de lui donner l'île d'Elbe. Les Français n'ont pas laissé la même chance à Louis XVI et à Marie-Antoinette. Ils auraient pu leur voter l'exil, ils ont voté la mort. Et Louis XVI a été exécuté à une voix, celle de son cousin Philippe d'Orléans. Philippe d'Orléans, père de Louis-Philippe, qui deviendra roi. C'est pourquoi moi, je n'aime pas les Orléans. Cette famille s'est imposée sur une trahison, pire qu'une trahison. la condamnation à mort de Louis XVI qui n'avait rien fait de mal, qui n'avait jamais trahi la France et qui se préoccupait beaucoup du peuple. Ça lui a coûté très cher de ne pas faire tirer sur le peuple. Lorsque les Tuileries ont été attaquées, il n'a pas voulu que ses gardes suisses tirent sur le peuple, qui arrivait, les femmes, enfants, armés de fusils, etc. Donc il a refusé de faire tirer. Sa garde suisse a été massacrée, ça a été terrible, et lui a fini très très mal aussi, sa femme aussi, et son fils a souffert énormément. Le cousin du petit roi de Rome, hein, ce sont des enfants qui ont eu une drôle de destinée. Le roi de Rome a quand même été matériellement gâté, mais le petit roi est mort dans des conditions terribles. Louis, le petit qu'on a appelé Louis XVII, est mort dans des conditions terribles. Donc nous voyons que la France, la République française, avait été bien plus mauvaise que ne l'ont été les Alliés. Ils n'ont quand même pas fait exécuter Napoléon. Ils auraient pu le fusiller. Donc Napoléon est à l'île d'Elbe et Jean Tullard, qui est le grand spécialiste de Napoléon, porte un regard particulier pour expliquer le recul autrichien, parce que l'intérêt de l'Autriche aurait peut-être été d'avoir Marie-Louise régente pour son fils. Puis après tout, c'est l'enfant, ben, vivre ou pas, l'Autriche aurait été, l'empereur d'Autriche aurait été le père de la régente. Mais Jean Tullard s'interroge sur le recul autrichien. Il regarde du côté de l'Angleterre. Le cabinet britannique, dit-il, ne veut pas d'un Napoléonide sur le trône de France, à plus forte raison d'une régente autrichienne. Toujours le sacro-saint équilibre de l'Europe. Le sacro-saint équilibre de l'Europe. Lorsque Louis XVI a épousé Marie-Antoinette et que les Autrichiens se sont rapprochés de la France, eh bien les Anglais se sont rapprochés de la Prusse, de Frédéric de Prusse, qui était l'ennemi de tout ce qui n'était pas lui-même. Allez, voilà. Et donc, et voilà, il ne voulait pas non plus qu'il y ait une Autrichienne sur le trône de France. Un sacro-saint équilibre de l'Europe, surtout qu'ils ne perdent pas une once de pouvoir, les Anglais. Or, Metternich a besoin de l'appui anglais. Metternich, nous le savons, c'est le ministre tout-puissant de l'empereur d'Autriche. Monsieur de Metternich a besoin de l'appui anglais face à la résurrection prussienne et à la poussée russe. Ah oui, la Prusse, là, alors. Tous les rois d'Europe ont travaillé pour le roi de Prusse. C'est de là qu'est venue cette expression, travailler pour le roi de Prusse, hein, c'est-à-dire travailler contre ses propres intérêts. En fait, la position de l'Angleterre n'est pas nouvelle. Dès l'entrée en guerre contre Napoléon, elle a signifié son hostilité à l'égard d'une régence et a obtenu du gouvernement autrichien l'assurance qu'il ne voulait pas être lié au labyrinthe des problèmes politiques français. Voilà. Donc, l'Angleterre est toujours là pour être contre Napoléon et même contre un petit enfant qui ne présentait pas beaucoup de dangers. Comme le résume Caulaincourt, proche, fidèle et proche de Napoléon, le souverain autrichien est empereur avant d'être père et donnera sa préférence aux intérêts de son peuple, de ses peuples, dit-on, sur ceux de sa fille et de son petit-fils. Il est déterminé à respecter ses engagements et ne peut intervenir en faveur de la régence. Voilà pourquoi il reste à l'écart et tarde à répondre aux appels au secours de sa fille. Marie-Louise, sous le choc, est loin de prendre ses calculs politiques en considération. Au colonel de Galbois, qui est envoyé par les Bourbons, enfin qui représente le gouvernement provisoire, elle annonce son départ sur le champ avec son fils pour rejoindre l'empereur. Elle a le devoir, dit-elle, de le soutenir dans son malheur. Donc elle a été quand même vilipendée, Marie-Louise. Elle a voulu rejoindre Napoléon. Elle voulait le soutenir dans son malheur, c'est une belle expression, mais l'envoyer, l'en dissuade, lui, il travaille pour le gouvernement provisoire et ne souhaite pas qu'elle rejoigne l'empereur. Les Cosaques rendent Rhodes et son mari lui a fait dire de s'arrêter à Orléans. Alors, pourquoi la tient-il à distance? À bout de nerfs, elle est incapable de prendre la moindre décision et finit par rester. Elle obéit au colonel de Galbois. Elle obéit à toute personne qui lui donne un conseil ferme. Elle ne sait plus où elle en est. Alors, elle est jeune. Elle a épousé Napoléon, elle avait 18 ans, même moins. Là, ça s'est mal passé. Elle doit avoir à peine plus de 20 ans. Marie-Louise, je vous le dirai mieux la semaine prochaine, mais c'est toujours une toute jeune femme qui a toujours été entourée, à qui on a toujours dit ce qu'elle devait faire. Napoléon, c'était l'ogre corse, l'ennemi de toute l'Autriche. On lui dit qu'il faut l'épouser, elle l'épouse. Marie-Louise est quelqu'un qui a l'habitude d'obéir. C'est une gentille petite princesse qui fait ce qu'on lui dit. À bout de nerfs, elle reste et autour d'elle, ce ne sont que désaccords, agitation et panique. À écouter la duchesse de Montebello, il n'y a pas d'hésitation possible. Elle doit attendre l'aide de camp du tsar et surtout ne pas se précipiter à Fontainebleau où elle risquerait d'être mal reçue par un mari trahi par son beau-père. Voilà ce que lui dit la duchesse de Montebello. Chef de sa maison, était la dame d'honneur principale. L'approche des troupes russes aux environs de Blois ne fait qu'accroître la panique qui souffle sur la préfecture du Loir-et-Cher. Joseph, Jérôme, les frères de l'empereur, et le ministre Cambacérès, inquiets pour leur sécurité, se mettent en tête de convaincre la régente de se retirer de l'autre côté de la Loire. Ils ne font qu'appliquer les instructions de Napoléon. En réalité, Napoléon veut qu'elle aille à Orléans. Et Napoléon craint que sa femme et son fils ne tombent aux mains de l'ennemi. Mais elle n'a pas d'amitié pour Jérôme et Joseph, pour la famille Bonaparte. Donc elle est convaincue qu'ils veulent la garder en otage. Elle s'y oppose catégoriquement. Ils insistent, elle explose. Elle demande une protection spéciale car elle est persuadée que ses beaux-frères cherchent à l'enlever. Elle est donc lâchée par ses nerfs et elle est bouleversée par une insistance qu'elle prend pour de la trahison. Marie-Louise se tourne à nouveau vers son père. « Tout ce que je désire est de vivre tranquille quelque part dans vos états et de pouvoir élever mon fils. » C'est donc la première fois où elle envisage se réfugier en Autriche. La démarche maladroite des Bonaparte a-t-elle réveillé sa conscience d'archiduchesse autrichienne? Son père, elle sait qu'il la lâchera en tant que régente, mais pas en tant que fille. Mais la journée n'est pas finie. Arrive alors Chouvalov, le prince Chouvalov, aide de camp du tsar, accompagné du comte de Saint-Aignan, qui représente le gouvernement provisoire. Ils informent Marie-Louise que l'île d'Elbe a été conférée par les alliés à Napoléon, qu'elle doit abandonner la régence et que Chouvalov est missionné pour l'escorter jusqu'à Orléans, puis Fontainebleau. Évidemment, c'est un piège. Elle accepte immédiatement. La femme de Napoléon préfère à présent se fier à un aide de camp du tsar et à un membre du gouvernement provisoire plutôt qu'au frère de l'ex-empereur. Eh oui. Elle n'a jamais eu confiance en eux. Le départ est fixé au lendemain matin. À présent, elle est soulagée. Elle écrit à son mari pour lui annoncer son départ pour Orléans et leur prochaine retrouvaille. « J'ai besoin de te voir et de partager tes chagrins. Ton fils se porte bien, lui écrit-elle. » Ce point la chagrine beaucoup. Elle ne peut admettre que l'île d'Elbe soit le seul avenir de son fils. Ce soir du 8 avril, elle rassemble ses dernières forces pour mener une bataille qui lui tient à cœur, celle de l'avenir de son fils. Elle est déterminée à mettre son père en face de ses responsabilités. Elle lui écrit afin qu'il intervienne en sa faveur auprès des alliés. « Je suis persuadée que vous ne voulez pas lui donner l'île d'Elbe comme unique héritage. Je sais que vous défendrez ses droits et que vous lui réserverez un meilleur sort. Tout ce que je désire est que vous puissiez voir cet enfant malheureux qui est innocent de toutes les erreurs de son père. Il ne mérite pas de partager une aussi triste position. Je vous recommande encore une fois mon malheureux fils. Je sais qu'il ne peut compter sur la France. » Donc elle demande à son père de s'occuper de son fils. de lui laisser quelque chose, de lui laisser une part de ses états, vous pensez bien qu'il n'en fera rien, parce qu'on aurait pu donner la Toscane à Napoléon. C'était Elisa, sa sœur, qui était grande-duchesse de Toscane. Mais il n'est pas question qu'on lui laisse quelque chose d'aussi important. Elle est prête à rejoindre son mari, Marie-Louise, mais elle glisse déjà inconsciemment vers son père. Mais comment lui en vouloir ? Autour d'elle, c'est la débandade. Avec la fin de la Régence, chacun veut rentrer à Paris au plus vite. Ministres, conseillers d'État, civils, militaires, tous prennent la fuite. Oubliez les serments de fidélité, les acclamations, si même les plus fidèles l'abandonnent, auprès de qui, si ce n'est son père, pourra-t-elle trouver de réconfort ? Marie-Louise et le roi de Rome quittent Blois le 9 avril au matin. Ils sont accompagnés d'autres membres de la famille impériale. Le cortège, bien que réduit, défile dans les rues comme 8 jours auparavant. Seul l'uniforme des soldats de l'escorte, mené par Chouvalov, a changé. L'impératrice peut-elle vraiment croire que l'envoyé du tsar est là pour la défendre et la conduire à Fontainebleau ? Elle et son fils sont désormais entre les mains des alliés. Le piège se referme. Quant à son fils, il achève sa vie de roi de Rome. Il a 3 ans et il a tout perdu. Commence alors le voyage vers l'inconnu. Marie-Louise et son fils se lancent sur la route d'Orléans dans l'idée de retrouver Napoléon. Mais au bout du voyage, ce n'est pas Fontainebleau qui les attend, mais Schönbrunn. L'entrée en scène de l'empereur François à Rambouillet change la donne. Marie-Louise, désormais rassurée par une présence familière, s'en remet à lui et reste sourde aux supplications de son fils qui réclame son père. Mais que te peut-il faire, le pauvre petit ? Alors que Napoléon gagne le sud, sa fille s'en va vers l'est. Ce voyage de plusieurs semaines marque le passage d'une vie à une autre. En quittant le sol français, le fils dit adieu à sa vie de roi de Rome et à son père. Ils ne se reverront jamais. Mais ils s'aimeront jusqu'au bout. Jusqu'à sa mort, Napoléon ne pensera qu'à son fils et le fils pensera toujours à son père. Alors le convoi qui emmène Marie-Louise et son fils parvient à Orléans sans trop de difficultés. L'impératrice, qui craignait une attaque, est soulagée. À Beaugency, pourtant, une bande de Cosaques réussit à piller les dernières voitures du cortège. L'intervention de Chouvalov permet de récupérer l'essentiel. Il faut dire qu'outre ses effets personnels, Marie-Louise transporte ses parures et les diamants de la couronne, donc il faut la protéger. Dans les quelques berlines qui la suivent, sont entassées vaisselle en argent et en vermeil, 1000 objets précieux et une masse de pièces d'or. Méneval, qui fut partie du voyage, se souvient de leur embarras pour transporter le glaive impérial sur lequel est enchâssé le régent. Le régent, c'est le plus gros diamant que possède la France. C'est le régent, donc, qu'il avait acheté, le régent Philippe d'Orléans, qui était lui qui s'est occupé très bien du petit Louis XV. Il a été régent. C'était un homme qui avait de grandes qualités de cœur. Et c'est lui donc qui a acheté ce diamant que l'on a appelé le régent de son nom. Et il était dans la poignée, il était enchâssé dans la poignée du glaive de Napoléon. Alors Méneval, proche de Napoléon, proche et fidèle lui aussi, comme Caulaincourt, propose finalement de casser la lame et de glisser la poignée dans sa redingote. Voilà comment a voyagé ce diamant qui vaut une fortune. Il est énorme, hein, il est aussi gros qu'une pomme ou il est énorme, le régent. C'est pour vous donner une idée, parce que moi je l'ai vu à la télévision. Voilà, mais lorsqu'il y a eu des émissions d'histoire à son sujet, mais bon, Louis XVI le portait à son chapeau, je pense. Et donc, je l'ai vu à la télévision et je peux vous dire qu'il est quand même très grand. Et il est gros et très très pur et très beau. Donc, le roi de Rome, cette fois-ci, n'a fait aucun caprice. Oui. Le séjour à Blois lui a même été agréable, parce que c'était le printemps et qu'il pouvait se promener dans la campagne. Nous allons laisser le roi de Rome à Blois et nous allons nous quitter pour aujourd'hui, chers amis de Radio Salve Regina, pour la suite du voyage vers l'Autriche.